Voici une question dont la réponse pourrait transformer votre vie. Comment pouvons-nous expérimenter la présence de Dieu? La parole de Dieu va nous donner une réponse qui nous fera connaître à quel point Dieu nous aime. Aujourd'hui, à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je suis convaincue que Dieu va se révéler à nous à travers sa parole au cours de cette émission. J'ai bien hâte d'entendre ce qu'il va nous enseigner quand il va répondre aux questions que voici. Quand Jésus est venu sur la terre, était-il à la fois pleinement homme et pleinement Dieu? Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils sur la terre? Comment pouvons-nous être certains de bien interpréter la parole de Dieu? Qu'est-ce qui confirme qu'une personne est un enfant de Dieu? Comment pouvons-nous expérimenter la présence de Dieu? Pourquoi est-ce que Dieu nous fait passer par des épreuves? Est-ce que Dieu s'éloigne de ses enfants quand ils sont dans l'épreuve? Demeurez à l'écoute. Le Seigneur va nous enseigner sa parole une fois de plus par la bouche du pasteur Régent Joly dans quelques instants. Mais premièrement, prions. Ô Seigneur, c'est bon de venir dans ta présence, sachant que tu veux nous enseigner. Fais-nous goûter à ta présence à travers cet enseignement aujourd'hui, mon Dieu. Instruis-nous. Fais-nous connaître la voie à suivre. On t'aime, Seigneur. Amen. À toi, Régent.
Merci, Caro. À la dernière émission, nous avons vu que la loi sert à nous révéler notre nature pécheresse et nous montrer que nous avons besoin d'un sauveur. Dieu n'accepte pas l'observation de la loi comme moyen de salut, et la croix est l'unique solution pour notre péché. Le but de la loi est de nous conduire au Seigneur Jésus-Christ, et c'est par la foi en lui que nous devenons fils de Dieu. Nous ne naissons pas fils de Dieu, et nous ne le devenons pas par le baptême. Nous sommes adoptés dans la famille de Dieu lorsque nous mettons notre confiance en Jésus-Christ. Nous sommes tous unis en Jésus-Christ, et la foi en lui fait tomber les barrières sociales et raciales. Le chapitre 4 fait partie de la section de la justification par la foi. Nous y découvrons une autre chose que nous obtenons par la foi en Jésus-Christ et que nous ne pourrions pas obtenir par l'observation de la loi. Nous devenons fils de Dieu. Nous devenons des fils de Dieu matures. Au début de notre marche chrétienne, nous sommes des enfants et ensuite nous grandissons spirituellement. Cependant, Dieu nous fait devenir fils de Dieu afin de nous donner une capacité que nous ne pourrions obtenir autrement. Chers amis, débutons notre lecture de l'Épître de Paul aux Galates, chapitre 4, verset 1er. « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Le mot « enfant » ici n'est pas le même que dans Galates, chapitre 3, verset 6. Où nous avions le mot grec « huios », qui fut correctement traduit « fils ». Dans ce verset, nous avons le mot « népios », qui signifie « un petit enfant » qui ne sait pas encore bien parler ou bien marcher. Le petit enfant dans une famille ne diffère en rien d'un esclave. Encore une fois, il faut nous pencher sur les coutumes romaines pour bien saisir l'illustration de Paul. Dans un foyer romain, les esclaves ou les serviteurs étaient responsables de différentes choses. Un esclave s'occupait des biens de son maître. Un autre, des troupeaux. Un autre faisait la comptabilité et un autre s'occupait des enfants. Lorsqu'un enfant naissait dans une famille, il était confié à un pédagogue et on ne pouvait distinguer l'enfant de celui des autres serviteurs. Il devait obéir aux serviteurs comme tous les autres enfants. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Quel était ce temps marqué par le Père? l'enfant demeurait sous tutelle jusqu'au jour où le père jugeait que l'enfant pouvait prendre ses propres décisions et qu'il le considérait comme un fils adulte. Notez que c'est le père qui déterminait si son fils avait atteint suffisamment de maturité. Un enfant ne devenait pas majeur à un âge déterminé, plus ou moins arbitrairement comme dans notre société contemporaine. Auparavant, une personne devenait majeure à 21 ans, et aujourd'hui, c'est à 18 ans. Mais les gens n'atteignent pas tous la maturité au même âge. Certains sont très matures à 18 ans, d'autres sont encore immatures à 65 ans. Au temps de Paul, c'est le père qui déterminait si son fils était suffisamment mature. À ce moment-là, une cérémonie appelée la toga virilis donnait la position de fils adulte à une personne dans sa famille. Dans un foyer romain, lorsqu'un fils devenait adulte, la cérémonie du toga virilis était organisée. La famille et la parenté étaient convoquées. Le grand jour, le père donne une robe ou tunique à son fils et lui met un anneau au doigt. Nous voyons un exemple de cela dans la parabole du fils prodigue dans Luc chapitre 15. Le père a reçu son fils comme un fils adulte. L'anneau était un sceau qui était l'équivalent d'une signature et qui donnait au fils l'autorité du père. Les serviteurs n'avaient plus d'autorité sur le fils. Ils donnaient des ordres maintenant et ils pouvaient châtier un esclave. C'est à cela que Paul pensait lorsqu'il dit, verset 3, « Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. » Sous l'esclavage des rudiments du monde signifie sous la loi. Paul dit qu'Israël a été placé sous la loi pendant son enfance. La nation devait se soumettre à des lois et à des règlements. Verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Jésus était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Marie était une femme juive. Une certaine secte affirme que Jésus n'appartenait pas à une race en particulier. C'est faux. Marie avait dû aller se faire enregistrer à Bethléem en même temps que Joseph, car ils étaient tous deux descendants du roi David. La Samaritaine, au puits, avait perçu que Jésus était un juif. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jean chapitre 4, verset 9. Jésus était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Jésus était Dieu fait chair, et selon la chair, il était un Juif. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé son Fils? Verset 5. Afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dieu avait deux buts, chers amis. Premièrement, racheter ceux qui étaient sous la loi. Ils étaient des enfants sous la loi. Voyez-vous, la loi n'a jamais fait d'une personne un fils de Dieu. Et deuxièmement, afin que nous recevions l'adoption. Un croyant est placé dans la famille de Dieu comme un fils adulte. À cette époque, dans l'Empire romain, le concept de l'adoption différait de celui de notre société contemporaine. Nous pensons à l'adoption par un couple qui ne peut avoir ses propres enfants. Le couple rencontre les autorités compétentes et ils entreprennent les formalités légales pour adopter un enfant de leur choix. Lorsque l'enfant devient leur enfant légalement, nous disons qu'il est adopté. Cependant, selon les coutumes romaines du temps de Paul, on adoptait son propre fils. La cérémonie du toga virilis consistait à faire cela. Huiotesia, le mot grec pour adoption signifie établir comme fils. Un croyant est placé dans la famille de Dieu comme un fils adulte pouvant comprendre les vérités divines. Seul l'Esprit peut nous interpréter la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 9 et 10, nous lisons « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Ces versets disent que les vérités de la parole de Dieu ne peuvent être interprétées que par l'Esprit de Dieu. Et tant qu'il ne les interprète pas, un homme ne peut les comprendre. Seul le Saint-Esprit peut interpréter les Écritures pour nous. C'est ce qui distingue certains hommes les uns des autres aujourd'hui. Un homme peut aborder les Écritures avec son intelligence. Il peut y apprendre quelque chose au sujet de l'histoire, de l'archéologie et des langues. Il peut devenir un expert en hébreu et en grec et ne pas comprendre les Écritures. Pourquoi? Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous enseigner. Le prophète Isaïe était conscient de cela. Jamais on n'a appris ni entendu dire, et jamais l'œil n'a vu qu'un autre Dieu que toi fasse de telles choses pour ceux qui se confient en lui. Isaïe, chapitre 64, verset 3. Si vous voulez connaître le Seigneur Jésus, seul l'Esprit de Dieu peut vous le révéler. Même un chrétien mature, spirituellement, n'est pas plus capable de comprendre les Écritures qu'un nouveau chrétien. C'est l'Esprit qui doit nous enseigner, que nous soyons un chrétien mature ou un jeune converti. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, racontait cette expérience. « Lorsque j'allais à l'école, j'étais le plus jeune de ma classe. Lorsque mon père est décédé, j'ai dû quitter l'école pendant 3 ou 4 ans pour travailler. J'étais toujours le plus jeune de la classe au moment de quitter l'école. Lorsque j'ai commencé à étudier pour devenir pasteur, j'ai dû compléter mes études secondaires. J'étais le plus âgé de la classe. Lorsque je suis arrivé au séminaire, je me suis rendu compte que j'ignorais la Bible. Je n'avais jamais vu de Bible à la maison. Nous ne prions jamais à la maison. Je ne connaissais même pas les livres de la Bible. J'étais très ignorant, mes amis. Il ne devait pas y avoir aucun étudiant aussi ignorant de la Bible que moi, et j'en étais conscient. J'ai dû mémoriser les noms de livres de la Bible, ainsi qu'apprendre des choses très élémentaires que j'ignorais au moment d'entreprendre mes études. Je me sentais inférieur aux autres. Lorsque je devais prêcher et que je remarquais des têtes blanches parmi l'auditoire, je me disais que ce que j'allais enseigner devait être très élémentaire pour ces personnes, car elles devaient connaître la Bible beaucoup plus que moi. Cependant, je découvris une chose. De nombreuses têtes blanches étaient encore des bébés spirituels. Ces personnes n'avaient jamais grandi. J'ai compris alors cette grande vérité. L'Esprit de Dieu pouvait enseigner un jeune homme comme moi aussi bien qu'un chrétien mature. Nous pouvions tous deux comprendre la Bible si l'Esprit nous enseignait. Ce fut une découverte pour moi, et ce fut un grand encouragement au début de mon ministère. Fin de la citation, chers amis. Si vous désirez sincèrement connaître la vérité, le Seigneur va vous l'enseigner. Si vous êtes un nouveau croyant, le même Esprit de Dieu qui m'enseigne peut vous enseigner. Si vous êtes un enfant de Dieu, il a fait de vous des fils adultes en vous adoptant. C'est merveilleux, mes amis. Si vous désirez sincèrement connaître la vérité, le Seigneur va vous l'enseigner. Nous dépendons tous de lui. Ceci nous amène à la troisième chose que le Seigneur Jésus fait pour nous et que la loi ne peut pas faire. La loi ne peut pas nous faire vivre l'expérience d'être un enfant de Dieu. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et parce que vous êtes fils, le fait d'être fils donne des privilèges, chers amis. L'Esprit nous le confirme lorsque nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16, exprime l'idée ainsi. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains 8, Paul dit aussi, « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 11 à 14. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous désirez être dirigé par l'Esprit de Dieu. La chair pourra parfois prendre le dessus, mais elle ne vous rendra jamais heureuse. Vous ne serez jamais satisfait par celle-ci, car vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Citation de Romains chapitre 8, verset 15. Vous n'avez pas besoin de vous dire, « Je ne marche pas comme je le devrais, donc je me demande si je suis un enfant de Dieu. » Mes amis, vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains, chapitre 8, versets 15 et 16. Quelle assurance, quelle certitude! Ces versets de Romains 8 sont la version non abrégée du verset de Galates. Je voulais vous donner tout le portrait. Le mot « Abba » ne fut pas traduit à l'origine parce que les gens respectaient les textes sacrés. Le mot « Abba » est si intime que les traducteurs ont préféré ne pas y toucher. En fait, le mot signifie « papa », « mon papa ». Dieu est notre merveilleux Père céleste, mais j'hésiterai à l'appeler « papa ». Verset 7. « Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu ». L'Esprit nous fait goûter la joie d'être un fils de Dieu, et nous pouvons nous écrier, pas juste répéter en paroles pieuses, et appeler Dieu Père, parce que l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, mais nous pouvons y croire, et nous pouvons, avec assurance, dire ce que nous sommes, un enfant de Dieu. Chers amis, nous expérimentons la présence de Dieu par la foi. Certaines personnes affirment que la seule façon d'avoir une expérience spirituelle avec Dieu est d'atteindre un haut degré de sanctification, c'est-à-dire devenir très saint ou de rechercher le baptême de l'Esprit. Elles affirment que si nous n'atteignons pas ce niveau de spiritualité, nous n'aurons jamais d'expérience spirituelle. Mes amis, permettez-moi de vous assurer que si vous êtes un nouveau croyant ou un croyant faible, vous pouvez goûter la joie d'être un enfant de Dieu sans atteindre un niveau de spiritualité élevé, parce que c'est par la foi en Jésus que vous devenez fils de Dieu. Lorsque des personnes ont atteint un degré élevé de spiritualité, elles ont tendance à se croire supérieures à nous. Cependant, nous sommes toujours les enfants de Dieu. Nous avons toujours des problèmes avec notre ignorance, notre entêtement, notre péché, nos craintes et nos faiblesses. Le Seigneur Jésus est l'être merveilleux. La foi en Jésus-Christ nous permet d'avoir des expériences merveilleuses avec lui. Je crois que nous devons avoir des expériences spirituelles. De nombreuses personnes en auraient besoin d'une. Dieu nous fait passer par le creuset de l'épreuve pour nous rapprocher de lui. Nous ne serons jamais parfaits. En fait, plus nous lisons la Bible, plus nous devenons conscients que nous sommes pécheurs et que nous avons une nature pécheresse. Même un chrétien mature n'est pas parfait. Il a grandi spirituellement, mais il n'a pas atteint la perfection. Mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons être conscients du fait que nous sommes des fils de Dieu. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Souvent, nous avançons d'un pas lourd et pesant dans notre vie chrétienne, et nous ne sommes pas en communion avec Dieu. La vie devient ennuyeuse et monotone, mais il y a aussi des temps pendant lesquels Dieu nous fait passer par le creuset de l'épreuve pour nous rapprocher de lui, et ensuite nous goûtons la joie d'une communion intime avec lui. Nous avons vu récemment que l'épreuve de Job l'a rapproché de Dieu. Il n'avait pas permis ses souffrances pour détruire Job ou pour le punir, mais pour lui ôter son orgueil qui le séparait de Dieu. Souvent, c'est au cours d'une épreuve que Dieu se révèle à nous. Je connais un chrétien qui a passé 10 ans de sécheresse matérielle et spirituelle, et lorsqu'il fut au bout de son rouleau, il a permis à Dieu de le libérer d'un péché grave dans sa vie. Lorsque je l'ai rencontré, il jouissait d'une communion intime avec Dieu. Son épreuve l'avait disposé à laisser Dieu travailler dans son cœur. John Patton fut un missionnaire pionnier dans les Nouvelles-Hébrides, appelé le Vanuatu aujourd'hui. Ce sont des îles, un archipel dans le Pacifique. Il était un jeune homme lorsqu'il devint missionnaire, et sa jeune épouse l'accompagna en mission. Lorsque leur premier enfant naquit, l'enfant et la mère moururent. Patton les enterra de ses propres mains, et il dut surveiller la tombe pendant quelques jours, car il se trouvait chez une tribu cannibale. Ils auraient pu déterrer les corps pour se nourrir des cadavres. Patton a dit que si le Seigneur n'était pas venu vers lui à ce moment-là, il serait devenu fou. Chers amis, êtes-vous un fils ou une fille de Dieu? Le Seigneur s'approche des siens lorsqu'ils sont dans la détresse. Lorsque Paul s'est retrouvé en prison, il a pu dire, « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. » Citation de 2 Timothée chapitre 4, versets 16 et 17. Le Seigneur a assisté l'apôtre Paul. Il l'a consolé dans son épreuve. Il a consolé et encouragé John Patton. Il m'a assisté à plusieurs reprises, et il en fera autant pour vous. C'est rassurant d'avoir un tel Père céleste. C'est alors qu'il dit, « Je ne te délaisserai point, et je ne t'abandonnerai point. » Citation de l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 5. « J'espère que vous êtes son fils, que vous êtes devenu un enfant de Dieu. » Écoutez ce texte, tiré de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 et 4. « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. » Dieu met à la portée des siens sa consolation. Dieu veut notre cœur, donc une relation intime avec nous. Il ne se contente jamais de rituels religieux, surtout lorsqu'ils ne sont pas observés comme expression de notre amour pour lui, mais plutôt comme moyen de se mériter sa faveur ou d'essayer d'obtenir quelque chose de Dieu. Car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Citation du prophète Osée, chapitre 6, verset 6. Connaître Dieu, c'est avoir une relation intime avec lui. Nous connaissons les personnes que nous côtoyons régulièrement, tels nos parents et nos compagnons de travail. Nous connaissons les gens avec qui nous entretenons des relations. Par contre, les autres, nous en avons plutôt entendu parler. J'ai entendu parler de mon député, mais je ne l'ai jamais rencontré. J'ai entendu parler du maire, mais je ne l'ai jamais rencontré. Je ne les connais pas vraiment. Dieu attache plus d'importance à la relation entre nous et lui qu'à notre observation de rituels religieux. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, avez-vous cette connaissance ou avez-vous cette relation intime et personnelle avec Dieu par Jésus-Christ? Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Galates, chapitre 4, les versets 6 à 24.
Merci beaucoup, Régent. Mes amis, avez-vous goûté combien Dieu est bon à travers l'enseignement qu'il nous a donné aujourd'hui? C'est tellement merveilleux d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, cet Esprit qui nous confirme qu'on est des enfants de Dieu. Je me rappelle le jour où je suis devenue une enfant de Dieu, immédiatement après avoir admis que j'étais une pécheresse perdue, après m'être repentie, après avoir reçu Jésus comme sauveur, comme seul maître de ma vie, il m'a transformée. Je suis devenue son enfant immédiatement. Et l'Esprit de Dieu a fait sa demeure en moi. Je savais que je ne serais plus jamais la même. L'Esprit de Dieu me confirmait que j'étais une enfant de Dieu. tout était lumière autour de moi. En un instant, je suis passé des ténèbres à la lumière. Immédiatement, mon chagrin s'est transformé en une joie inexprimable et j'avais envie de le crier sur tous les toits. Et c'est ce que j'ai fait d'ailleurs. Au début, j'ai manqué de sagesse. Je disais aux gens qu'ils étaient perdus, qu'ils ne connaissaient pas la vérité, qu'ils iraient en enfer s'ils ne changeaient pas de conduite tout de suite. Et j'en passe. Je leur disais la vérité, mais j'aurais dû le faire autrement. On a pensé que j'étais devenue folle. Mais maintenant, après plus de 27 ans de vie chrétienne, les gens voient bien que je suis saine d'esprit. Et ma relation est rétablie avec ces gens que j'aime tellement. Ce sont eux qui me posent des questions à ce sujet maintenant, au sujet de ma foi. Et laissez-moi vous dire que c'est avec joie que je réponds à leurs questions, sachant que ce n'est pas moi qui vais les convaincre, mais l'Esprit de Dieu, tout comme il l'a fait pour moi d'ailleurs. Et après tant d'années, je suis encore épaté du fait qu'on n'a pas besoin d'atteindre un niveau spirituel extraordinaire pour jouir de la présence de Dieu. Dès qu'on devient un enfant de Dieu, on peut goûter à sa présence en tout temps. Je me rappelle les premiers jours après ma conversion. Peu importe où j'étais, je marchais comme sur des nuages. Je parlais à Dieu chez moi, dans mon auto, dans les centres d'achat, peu importe où j'étais, et je savais qu'il m'entendait. Je lisais la Bible et je comprenais ce que je lisais, contrairement à ce que j'avais expérimenté un an auparavant seulement. Alors que j'essayais de comprendre quelque chose en la lisant, et que tout était confus pour moi. C'est vraiment l'Esprit de Dieu en nous qui fait toute la différence. Et aujourd'hui, je continue à lire cette merveilleuse parole, et il me révèle des choses que je ne pourrais jamais comprendre si je n'étais pas une enfant de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'habitait pas en moi. Mon ami, es-tu un enfant de Dieu? Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en toi? Je crois que tu le sais si tu es honnête avec toi-même. Et je peux sincèrement te dire que tu n'as pas besoin de faire toutes sortes de rituels ou de sacrifices pour que ce miracle se produise en toi. Tu n'as qu'à croire en Jésus-Christ seul. Crois en lui. Crois-tu? Crois-tu que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est venu sur la terre dans un corps comme le nôtre afin d'aller jusqu'à la mort sur une croix pour payer en entier la dette qu'on avait envers Dieu pour nos péchés? Mon ami, admets que tu es un pécheur. Une pécheresse perdue. On est tous des pécheurs. Paul nous le dit dans son épître aux Romains au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Repens-toi, change de direction à l'égard du péché et demande à Jésus de te sauver.
Chers amis, les gens nous posent souvent cette question, Caro. Qui sommes-nous?
Mais qui es-tu, Réjean?
Mais qui es-tu, Caro? Non, mais quand même, devons répondre à la question.
J'aimerais que tu expliques à nos auditeurs qui tu es. Moi, je pourrais peut-être leur expliquer, mais toi, tu le sais encore plus. Tu connais tout ton vécu.
Tout d'abord, j'ai fait des études en carrière radiophonique et j'ai exercé ce métier pendant de nombreuses années. Plus d'une décennie.
Oui.
Ensuite, j'ai eu un appel divin, l'appel de Dieu, d'aller étudier sa parole. Et pendant plus de 4 ans, j'ai fait des études en théologie.
Maintenant, nos auditeurs en bénéficient.
Et grâce, il va sans dire, à la présence de Dieu dans nos cœurs, dans notre vie.
C'est merveilleux.
Nous sommes des gens qui sont nés de nouveau, selon les Saintes Écritures.
Ouais.
Des chrétiens évangéliques.
Oh là là.
Des gens qui croient que les Saintes Écritures ont encore quelque chose de très important pour notre vie.
C'est la vérité. Voici comment vous pouvez nous contacter par téléphone.
1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647, via courriel.
www.radioespoir.ca ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, G1G-6P2. À demain.
Bye bye.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.